Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Christian Deboissieu.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vice-président du Cercle des économistes. On dit un mot des rencontres économiques d'Aix-en-Provence dans un instant. Nicolas Bouzou, bonjour.
Bonjour.
Fondateur du cabinet d'analyse économique et de conseil Asterès. Vous avez publié La civilisation de la peur, pourquoi et comment garder confiance dans l'avenir chez Ixo Éditions. On en dit un mot également dans un instant. Et Philippe Mutrici, bonjour.
Bonjour.
Il est directeur des études de BPI France et on parlera donc de ces deux études que vous m'avez signalées. Aix-en-Provence, 2024. Je crois que c'est 5, 6, 7
juillet.
Voilà.
À quoi c'est encore plus important que d'habitude.
Ah.
Pour deux raisons. La première, c'est le sujet. C'est-à-dire qu'on a décidé d'avoir un titre, j'allais dire, affirmatif. Pas de point d'interrogation. Et le titre, c'est « Relier les mondes ». Dans un monde que vous connaissez aussi bien que moi, fracturé, fractionné, les guerres militaires, les guerres économiques, etc. Et donc, relier les mondes vers une réconciliation. Point. Pas de point d'interrogation. Donc c'est évidemment positif dans un contexte où il y a pas nécessairement tous les jours des informations positives. La deuxième raison.
Ici, il y a Nicolas Bouzou qui a publié.
On fait le lien. La deuxième raison, c'est que encore plus que les années précédentes, on travaille avec les jeunes. Il y a 60 000 jeunes qui ont été consultés par le Cercle des économistes depuis 2 ans, par la plateforme. Et les jeunes vont être encore plus présents avec cette année. Pas pour des raisons démagogiques, c'est parce que, même si nous vieillissons, je veux dire, c'est pas une raison pour ne pas traiter les problèmes intergénérationnels et les questions d'avenir des jeunes et les questions de projet de ces jeunes-là. Voilà les deux axes que je retiens.
Bon, bien sûr, BFM Business sera présent comme tous les ans, car nous sommes partenaires de cet événement. La civilisation de la peur, pourquoi et comment garder confiance dans l'avenir chez Ixo Éditions. Sur BFM Business, on appelle ça la France à tout pour réussir, c'est ça, Nicolas Bouzou.
En fait, ce livre, c'est en partie quand même une critique des médias, c'est-à-dire que...
Ah bon ?
Ouais, absolument. C'est-à-dire que ça fait 20 ans que je suis dans les médias, donc j'ai pensé qu'étant devenu une sorte de rentier du sujet, je pouvais maintenant commencer à taper dessus sans prendre de risques excessifs.
Voilà. C'est ça. C'est l'histoire des trains qui n'arrivent pas à l'heure, les médias. Vous
voilà, non mais en réalité, quand vous regardez la conjonction de la production des médias et les interactions avec les réseaux sociaux, en réalité, tout ceci aboutit à une représentation du monde qui est plus négative que ce que le monde est réellement. Donc ça, c'est le premier sujet que je développe.
De même, d'ailleurs, que les réseaux sociaux, ça n'est pas la France et que c'est généralement beaucoup plus éruptif
que
d'aller le pays.
Mais bien, et puis les préoccupations ne sont pas exactement les mêmes. Bon, ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, par rapport aux problèmes qui existent et qui sont très importants, les questions de réchauffement climatique, les questions d'inégalité, les questions de logement, les questions géopolitiques, qui sont des vrais problèmes. Mais je pense que nous sous-estimons notre capacité à répondre à ces problèmes. Et je vais vous prendre un exemple concret très rapidement. La question occidentale. Vous avez une très grande production littéraire sur le déclin de l'Occident. Mais il n'y a aucun déclin de l'Occident. Les problèmes démographiques de l'Occident, les pays non occidentaux, connaissent les mêmes. La Russie a les mêmes problèmes, la Chine a les mêmes problèmes. Les questions économiques. La Chine aujourd'hui a des difficultés économiques dont elle n'arrive pas à sortir. Et même d'ailleurs, la Russie, je pourrais vous le démontrer, même si les chiffres de croissance ne sont pas mauvais, ou la Turquie qui est en prise avec une hyperinflation dont ils n'arrivent pas à sortir. Et donc, ce que je veux montrer, c'est que par rapport à tout ce discours qui consiste à dire que c'était mieux avant, que tout est foutu, qu'on va vers un effondrement climatique, tout ceci est faux. Et ça n'est pas une question d'optimisme, ça n'est pas une question d'humeur, c'est faux, parce que les chiffres nous disent autre chose, notamment, et je m'arrête là, sur la question environnementale, où les pays développés sont en train de faire des progrès extraordinaires. Vous avez vu, vous parliez de la France en 2023,
4,8. Les émissions,
c'est formidable, le Royaume-Uni...
Baisse des émissions, 4,8 en 2023 en France.
C'est formidable, on accélère, le Royaume-Uni, pour prendre cet exemple, en termes d'émissions de CO2, est un pays qui est aujourd'hui sur la trajectoire de la neutralité carbone en 2050. Donc ceux qui vous disent il faut faire la révolution, il faut changer de modèle, etc., on va dans le mur, c'est faux. Nous allons dans la bonne direction. Voilà le message que je veux faire passer.
Oui. On appelle ça la France a tout pour réussir.
Non mais déjà la France. Non, mais deux mots là-dessus.
Je défends le slogan parce que souvent j'ai des auditeurs qui me disent mais comment vous pouvez continuer à dire que la France a tout pour réussir. Et là on va partir dans des chiffres noirs des comptes publics dans un instant.
Oui mais la France c'est un moteur à explosion. La France c'est pas le Danemark ou c'est pas les Pays-Bas. Donc il y a des moments où ça va moins bien. Mais la France c'est un pays qui se ressaisit tout le temps. On a vu ça historiquement. Il n'y a pas de déclin de la France sur le long terme. Il y a des périodes de déclin. Et donc, il ne faut jamais désespérer de la France.
5,6% de déficit en 2023. On attendait 4,9. L'INSEE donne le chiffre définitif mardi prochain, Christian de Boissieux. 2 milliards de déficit en plus pour les comptes de la Sécurité sociale. Il manque 7,7 milliards de recettes fiscales en 2023. Réaction de Fitch et Moody's le 26 avril avec une dégradation probable. Et puis Standard & Poor's se prononcera le 31 mai, une semaine avant les élections européennes. La dette nous coûte cette année 55 milliards d'euros. Elle coûtait 34 milliards d'euros en 2020. Elle coûtera 84 milliards d'euros en 2027 au train où vont les choses et sera de très très loin la première dépense de l'État. Est-ce qu'Éric Ciotti a raison ? Est-ce que la France, c'est la Grèce ?
Non, quand on regarde, attendez, je réponds directement.
Excusez-moi de plomber un peu l'ambiance, Nicolas.
Le juge de paix de tout ça sont les taux d'intérêt exigés par les marchés, par exemple le taux à 10 ans. Aujourd'hui, la France paye 2,9% pour s'endetter à 10 ans.
On est à 50 points de base des Allemands, à peu près.
Bon, à peu près. Les Grecs, à 10 ans, c'est 3,60. Bon, alors, moi, je salue l'effort qui a été fait par la Grèce. Donc, je ne suis pas en train de sous-estimer ce que la Grèce a subi de politique d'austérité.
Ça, c'est de l'austérité de la vraie, oui.
Ouais, non. Chapeau. Bon. Je commence par dire chapeau. Mais aux yeux, en tout cas, de cet arbitre, ou de l'arbitre que sont les marchés, la Grèce, ça n'est pas la France. Je voudrais simplement dire que les chiffres que vous avez rappelés, évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que la trajectoire qui est prévue pour aller vers 3% en 2027, qui est l'engagement de M. Macron et de son gouvernement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Deuxième remarque.
C'est aimable de dire compliqué.
Oui. Non, mais moi, je... Voilà.
Mais non, mais allez-y.
Je ne suis pas obligé. J'ai le droit de parler français encore.
Oui, bien sûr.
Deuxième remarque. Ça va être aussi compliqué de financer tout ce qu'il faut financer. Je veux dire, il faut financer quoi ? La défense et la sécurité. Pas besoin de faire d'image. Deuxièmement, il faut qu'on finance, en partie par les budgets publics, la transition énergétique et écologique. Il faut qu'on finance l'éducation, la santé, c'est la quadrature du cercle. Alors, tout ça, comment est-ce qu'on s'y prend ? Je veux dire, quand M. Le Maire, il y a quelques mois, a annoncé une revue des dépenses publiques, bon, on ne peut être que d'accord, simplement j'ai rappelé, y compris autour de cette table, et à votre antenne, que ça fait 20 ans qu'on lance des plans de revue des dépenses publiques. Oh, ça avait commencé avec la LOLF, la loi organique sur les lois de finances, la RGPP, la revue générale des politiques publiques, la MAP, la modélisation de l'action publique.
Sous François Hollande.
Le rapport sous
le cap 2022,
qui n'a jamais été publié ou qui a été publié par Borloo. C'est, je veux dire, on tourne autour du pot sur le thème de l'efficacité des dépenses publiques, et je pense qu'il faut tirer la sonnette d'alarme.
C'est ce qu'on est en train de faire, visiblement.
Non, mais j'attends des actes et pas des paroles. Excusez-moi de le dire. Bon, et je veux dire, nous sommes dans ce contexte-là, très compliqué, et il faut... Alors, vous aviez l'air de dire que la dégradation de la France, c'est quasiment... Certains, on verra au mois de fin avril.
Je pense que ça changera rien. Hein.
Non, ça changera
objectivement,
pas.
Objectivement, on verra pas les taux s'envoler.
Non, il y aura un effet d'annonce.
Oui.
Si c'est le cas, si les trois grandes agences de rating ou moins deux parmi les trois dégradent, il y aura un effet d'annonce qui sera pas très bon pour nous et qui servira, à mon avis, cet effet d'annonce aussi de force de rappel. Mais je veux dire, les chiffres que vous avez rappelés, qui sont pas bons pour 2023, 5,6% au lieu de 4,9%, ça veut dire qu'en 2024, on fera pas du 4,4% de déficit public, on sera au-dessus. Tout ça n'est pas bon et ça appelle un sursaut à la fois économique et, j'allais dire, politique.
Et bien justement, là, il y a ce livre aux allures de programme de Bruno Le Maire, et paraît-il, d'après le Canard enchaîné qu'Emmanuel Macron a dit à propos de ce livre, qui justement appelle à un sursaut. Tiens, il devrait en parler au ministre de l'économie. C'est ironique, mais bon, je l'ai entendu ça, depuis 2-3 jours, depuis l'annonce de l'apparition de la voix française, que n'a-t-il fait depuis 2017 ? Allez-y, Philippe Mutry, oui, par rapport à la situation qu'on évoque.
Quelques mots rapides, alors évidemment, non, on n'est pas dans
non
la...
quoi ?
On n'est pas dans la situation de la Grèce. Ça n'a rien à voir. Enfin, essayons d'être un petit peu rationnel dans ce débat.
Il fait un peu de politique, Éric Ciotti.
Oui, mais enfin, écoutez, je commenterai pas les propos politiques, mais en tout cas, comparer la situation de la Grèce à la situation de la France, que ce soit en 2012 ou maintenant, la taille du PIB n'est pas la même, la capacité à lever l'impôt n'est pas la même. C'était la grande difficulté de la Grèce à l'époque.
Et puis elle avait menti sur ses comptes publics.
Voilà. C'est pas la situation de la Grèce. Mais pour autant, ce qui est en train de se passer, c'est important. C'est-à-dire qu'on est en train de sortir de la parenthèse enchantée du quoi qu'il en coûte. Donc on a eu 3 ans pendant lesquels la Commission européenne a suspendu tous les mécanismes de contrôle des déficits. Et en fait, qu'est-ce qui vient de changer récemment ?
Le nouveau pacte de stabilité.
Ils ont été restaurés. Donc il est fort probable qu'on se retrouve en procédure pour déficit excessif l'année prochaine.
C'est déjà arrivé, ça n'a eu aucun effet. Voilà.
Bien sûr, mais ça remet le sujet...
C'est encore des histoires, des affichages, on ne les respecte pas. Et
ça met quand même une forme de pression.
Oui.
Et ça remet le sujet donc, au bout du jour. Donc ça, c'est le premier changement récent. Le deuxième, même si Christian de Boissieu l'a dit, c'est les taux d'intérêt. Donc c'est vrai qu'ils ne sont pas à un niveau très élevé, mais l'État n'emprunte plus à taux négatif. Et donc, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, ça se voit dans la charge de la dette. Ça va se voir assez rapidement, d'ailleurs, compte tenu de la masse de la dette. Donc ça, c'est le deuxième changement important. Et puis, le troisième, c'est la conjoncture. Qu'est-ce qui provoque aujourd'hui ce débat ? C'est que la croissance 2023 a été moins bonne que prévu, donc les recettes fiscales moins bonnes. On est sur un début 2024 qui est très proche de zéro. 0,1, 0,2 en croissance trimestrielle, 0,2 au mieux sur ce début d'année. Et on a un système de prélèvement fiscal et social qui est très sensible à la conjoncture. Et donc, effectivement, le déficit 2023 va déraper de 0,7 points de PIB très probablement. Moi, ma crainte dans tout ça, c'est le risque. Enfin, c'est le risque de tirer des mauvaises dispositions, des mauvaises solutions.
Des mauvaises solutions.
La mauvaise solution, ça consisterait à tailler dans les dépenses qui soutiennent la croissance. Moi, je pense par exemple à ces pauvres impôts de production qui existent toujours en France et qui sont toujours supérieurs à la moyenne de l'économie européenne.
Il faut continuer à les baisser.
Il faut continuer à les baisser. Pourquoi ? Parce que si on veut rétablir un équilibre budgétaire, il y a 2 méthodes. Il y a taper dans les dépenses, bien sûr, mais il y a aussi augmenter la valeur ajoutée.
J'entends.
Et pour augmenter la valeur ajoutée, il faut garder les bonnes dépenses, celles qui contribuent à la croissance.
J'entends, et c'est d'ailleurs ce que la CPME disait, il faut absolument maintenir la politique de l'offre. Bon, Nicolas, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, moi j'ai l'impression que la situation est plus... que l'anxiété est plus forte que d'habitude.
Ouais.
J'ai rarement vu l'exécutif se mobiliser pour aller chercher des milliards aussi vite. 10 milliards par décret, ça s'était jamais vu. Et là, vraiment, on commence à aller chercher des montants importants quand on annonce 20 milliards pour 2025. Si on veut continuer à baisser les impôts de production, faire cette promesse de 2 milliards d'impôts en moins pour les classes moyennes, moi, je vous ai fait la liste dans le programme du jour sur qui il faut taper, parce qu'il faut taper sur quelqu'un. Qu'est-ce qu'on va faire ?
Alors, déjà, j'ai un petit désaccord avec le gouvernement qui veut cibler en priorité les dépenses sociales par rapport à l'État. Ça a été dit par Bruno Le Maire.
Les dépenses d'État, c'est les 10 milliards, là.
Alors, c'est les 10 milliards. Si on regarde les choses très attentivement, c'est plutôt 4-5 milliards que 10 milliards, en réalité, parce que dans les 10 milliards qui ont été annoncés, il y a des opérations budgétaires qui devaient, par exemple, le ministère de la Recherche devait acheter des bâtiments, ils le feront pas. Il y a aussi, vous savez, tous les systèmes de crédit d'impôt, c'est-à-dire que les ministères mettent de l'argent en réserve en cas de coup dur,
voilà.
et ces réserves vont être diminuées, etc. Donc,
c'est la poire pour la soif, s'il y a un truc.
Très honnêtement, c'est un peu plus de l'ajustement comptable, on va dire.
Il y a de l'ajustement comptable.
Que de la baisse de dépenses, à peu près la moitié. Mais je voudrais vous dire quelque chose qui me semble important. Le déficit de l'État, donc là je ne parle pas de la sécurité sociale ni des collectivités locales.
L'État, c'est une des 3 fonctions publiques.
Voilà, alors les collectivités locales, de toute façon, il n'y a pas de déficit puisque personne ne le sait, mais je rappelle que c'est interdit.
Il est dans la loi.
Donc elles s'endettent pour financer les investissements, bien évidemment, mais sur le reste, c'est impossible de voter un budget en déficit. Absolument. Donc on oublie pour l'instant les collectivités locales. La question de la sécurité sociale, mais l'État, en 2023, c'est 170 milliards d'euros de déficit pour des dépenses de 455 milliards d'euros. Donc déjà, ça veut dire que vous avez, si je compte bien, quasiment 40% des dépenses qui sont financées à crédit. Parce qu'on dit toujours 5% du PIB, le déficit, mais ça ne veut rien dire. C'est pas,
on beaucoup mieux le regarder.
On le regarde. Déjà, vous voyez que les chiffres sont massifs. C'est très important. Mais la deuxième chose, c'est que si vous regardez l'évolution du déficit de l'État depuis 2020, et je prends l'année 2020 à dessein, puisque c'était l'année du Covid, vous apercevez qu'en réalité, on est quasiment toujours au même niveau de déficit, à 10 milliards d'euros près. Ça veut dire que nous ne sommes jamais sortis du quoi qu'il en coûte. C'est ça ce que ça veut dire. Nous n'en sommes pas sortis.
On l'a bien arrêté, le bouclier sur le gaz. On a bien réduit le bouclier sur l'électricité. On a bien cessé de donner 20 centimes par litre d'essence.
Récemment, oui, mais ça, on l'a fait récemment. Les aides face au choc énergétique, la Cour des comptes nous dit, grosso modo, tout ça a coûté 80 milliards d'euros. Donc ce sont des dépenses qui sont absolument considérable. Et donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, la première chose, c'est qu'il faut, pardonnez-moi pour le néologisme, mais dès quoi qu'il en coûtiser l'économie française. Alors, la dès quoi qu'il en coûtisation.
Le mot le plus long de la langue française.
Très concrètement.
J'arrive pas à le répéter.
Très concrètement. Ça veut dire que si demain on a à nouveau un choc exogène du type, justement, énergie, etc., pour le coup, on est obligé de l'absorber par les marges d'entreprise de pouvoir d'achat des ménages.
Cette fois-ci, il faudra
donc,
le payer.
Voilà, donc ça, c'est la. Et d'ailleurs, je trouve que le gouvernement, me semble-t-il, pourrait faire cette pédagogie et le dire clairement. Enfin, je veux dire, c'est pas honteux de dire ça. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un sujet dont on parle là encore depuis 20 ans sur votre antenne, mais qu'on n'a jamais vraiment regardé en face, qui est celui de la réorganisation de l'État et de la sphère publique. Alors, qui n'est pas un sujet qui va faire des économies en 2024 ni en 2025, bien évidemment. Mais tant qu'on n'aura pas regardé ce sujet, et c'est des choses très concrètes, tant qu'on ne se sera pas dit, au ministère de la Santé, on a fait les ARS en région, mais en faisant les ARS, on n'a pas restructuré le ministère de la Santé, avenue de Ségur. Et tant qu'on ne se posera pas ce genre de questions, bah du coup, on sera obligé de faire le rabot. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est très exactement ce que le président de la République avait dit. Enfin, il nous avait dit qu'il y mettrait fin dès 2017. C'est-à-dire que c'est la stratégie du rabot.
Est-ce que là-dessus...
Alors, allez-y, Christian
Debout. Je rappelle quand même que la commission Attali, dont j'étais membre avec beaucoup d'autres gens d'ailleurs...
Ah, c'est vrai que vous étiez membre de la commission.
En 2007, avait ouvert ce débat.
Bien sûr.
Alors, c'était...
Et le rapport Armand-Rueff l'avait ouvert aussi.
En 1958, le rapport Armand-Rueff 58-59 l'avait ouvert. Simplement, je reviens sur la commission Attali. Il y avait des propositions de réorganisation de l'État. En liaison d'ailleurs avec les collectivités territoriales, on essayait, il faut supprimer un échelon, etc. Mais ça allait plus loin que les problèmes d'échelon. Et quand je disais tout à l'heure, ça fait 20 ans qu'on lance des commissions qui débouchent sur des rapports qui débouchent sur pas grand-chose, on est quand même là-dedans. Parce que derrière la réorganisation, il y a le thème de l'efficacité. Et je pense qu'il y a deux sujets derrière le problème de la réorganisation de l'État. Il y a la volonté politique, là ou pas là, et puis il y a la bonne méthode. Ouais. Et je pense qu'on pêche des deux côtés. Il y a une insuffisance de volonté politique pour des tas de raisons sur lesquelles je vais parvenir. Et c'est compliqué. Je me souviens avoir travaillé sur l'efficacité des dépenses de défense. C'était avant les événements récents. Vous prenez le ministère des Armées ou de la Défense, il a changé de nom au cours du temps. Aborder le problème de l'efficacité des dépenses de défense, c'est très important. C'est très compliqué. Bon, donc, moi, je jette pas la pierre. Je dis simplement, je suis un peu énervé de cet écart entre une volonté affichée, permanente, de réorganiser l'État, d'améliorer l'efficacité des dépenses publiques.
Et de ne pas y parvenir.
Et la faible culture derrière tout ça. J'ajoute, pour terminer, parce qu'il y a un autre point dont on n'a pas parlé qui me paraît important.
Alors, parce qu'on marque une pause.
Bon, ces chiffres français ne sont pas bons. Ce qui nous aide un peu en ce moment... c'est que les Allemands ont leurs problèmes budgétaires. Ah, oui. Alors, je m'en réjouis pas. Alors, ils ont certes un ratio de dette publique qui est bien inférieur au nôtre, mais quand vous regardez le débat sur le déficit public, la question de savoir ce qu'on met dedans, ce qu'on met pas dedans, après la décision de la Cour de Karlsruhe, vous avez un vrai sujet budgétaire en Allemagne qui nous aide un peu. C'est pas ça qui règle les problèmes franco-français. Mais, je veux dire...
Ça détourne un peu l'attention.
Il y a toujours des comparaisons relatives. Il y a le relatif, il n'y a pas que l'absolu dans tout ça.
On marque une pause. On pourra peut-être encore en dire un mot. Parce que là, c'est bien pourtant la dépense sociale, hein, Nicolas, qui est quand même dans le viseur très clairement. Ça s'appelle retraite, assurance chômage, la dépense sociale, remboursement des affections longue durée, remboursement des arrêts maladie dans la fonction publique. Allez, chaque fois qu'il y aura une décision autour de ces événements-là, il y aura quelqu'un qui paiera, c'est absolument certain. On évoquera la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Il ne faut pas quand même en attendre des miracles, même si les chiffres sont bons et si des efforts sont faits.